Si je vous parle ce matin de culture hors-sol, ne voyez aucune ironie dans mon propos, je vais être terre-à-terre. Foie d'Auvergnat, de définition du hors-sol, j'en vois au moins trois. Le hors-sol, c'est d'abord quand on cultive sans le support du sol, dans un bac, une jardinière, sur un mur, sur un toit. Le hors-sol, c'est aussi un type d'élevage où les animaux sont nourris avec des produits qui ne viennent pas de l'exploitation, mais d'une terre voisine ou d'une industrie. Et puis le hors-sol, c'est enfin tout simplement quand on pose une piscine dans le jardin, par exemple, au lieu de creuser un trou. On parle de hors-sol, là aussi. Autant dire que c'est une philosophie. Et n'allez pas me dire qu'elle plane, qu'elle est déconnectée du monde ou qu'elle a perdu le sens des réalités, la culture hors-sol, parce qu'en fait elle a tout à fait les pieds sur terre, moi je vous le dis. Alors évidemment, quand il s'agit d'une personnalité souvent politique, mais parfois artistique aussi, on dit qu'elle est hors-sol quand elle a été élevée non pas sur le terrain qu'elle entend dominer, mais dans les parages d'une élite privilégiée, quand elle a été nourrie non pas au langage de son pays, mais au jargon d'une grande école, quand elle est parachutée dans le vrai monde comme une piscine gonflable destinée à s'envoler ou à être percée, au lieu d'être proprement ancrée dans son territoire. La culture hors-sol, en fait, qu'on se le dise, elle fait partie de notre histoire.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Est-il déjà arrivé à mon invité d'aujourd'hui de se sentir hors-sol? Artiste aux facettes multiples, comédienne, chanteuse, réalisatrice, performeuse, personnage à elle toute seule qui n'a pas fini de vous dérouter et ou, comme disaient les structuralistes un temps, de vous éblouir. Bonjour Ariel Dombasle.
Ah, l'éblouissement, ça me fait très plaisir.
Merci beaucoup.
Je crois que nous pouvons poser ça comme principe d'éthique, d'être ébloui par les autres. D'ailleurs, c'est un de mes principes, le principe d'admiration. Je vais toujours vers les gens que j'admire, et en général, mais comme dit Lacan, il n'y a d'amour que réciproque, et bien il n'y a d'admiration que réciproque. Les choses marchent souvent comme ça, c'est un des petits miracles de la vie.
Ça vous arrive parfois, Ariel Dombasle, de vous sentir totalement hors sol?
Ça m'arrive de me dire je ne fais pas du tout partie de cette communauté d'humains juste là, à ce moment-là. Enfin oui, mais je crois que ça arrive à tout le monde.
Mais ça voudrait dire ici déconnecté du monde un petit peu?
Non, déconnecté du monde, je ne crois pas, parce que je suis très observatrice et je pourrais même dire contemplative.
Mais par exemple, quand dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, vous parlez du besoin de préserver la nature et qu'on vous voit tour à tour dans un avion ou dans une voiture,
c'est
un peu maladroit.
Maladroit, je ne crois pas. Je crois qu'il faut bien savoir l'énorme problème que pose le progrès, n'est-ce pas? Et nous, les êtres du 21e siècle, qui n'allons pas, parce que ça pollue, ne plus avoir de voiture, ne plus prendre l'avion, ne plus avoir de plastique sur la Terre, ce n'est pas comme ça qu'est l'équation. L'équation, c'est d'être plus intelligent et de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir recycler surtout toute cette immense, tout cet immense déchet, détritus que nous fabriquons et qui est indestructible,
et
notamment
c'est vrai
les plastiques.
Que votre intérêt pour la planète et pour l'environnement, il remonte effectivement à bien plus loin. Il est loin de se résumer à la vidéo que j'ai évoquée. Je pense à votre engagement pour la cause animale, notamment.
Oui, oui, la cause animale. J'ai vécu au Mexique. J'ai été élevée au Mexique jusqu'à l'âge de 18 ans. Et évidemment, dans les pays pauvres, les espèces animales sont presque des choses comme les espèces végétales, tout à fait de deuxième catégorie par rapport, n'est-ce pas, à la difficulté d'être quand on est un être dans des pays qui sont si rudes. Et donc l'animal est très 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 maltraité. Et moi, dès l'âge de 4 ans, dès l'âge de mes premières consciences, je me suis toujours tournée vers les êtres les plus faibles et les êtres les plus humbles, et je les ai toujours aidés. Alors c'est vrai que j'ai sauvé un nombre incalculable d'animaux, j'ai nourri, j'ai soigné, j'ai fait ça dès l'enfance. Et je me dis qu'un monde sans animaux, pour moi, serait intenable.
Vous vous souvenez, Ariel Dombasle, quand les végétariens n'avaient pas du tout bonne presse, quand ils étaient raillés, montrés du doigt? C'est en train de changer, ça?
Oui, les végétariens, évidemment, il y a, parce que, évidemment, là aussi, il y a des modes, il y a des exagérations, on devient végétaliste, macrobiotique.
Macrobiotique,
oui. Macrobiotique, c'est une science de mâcher les aliments très très longtemps, pour vraiment sentir ce qu'est un aliment. Enfin, bon,
ne me dites pas que vous êtes macrobiotique, Ariel.
Ah non, je ne le suis pas du tout. C'est très psycho, mais j'en suis pas là. Non, moi, j'ai comme tout le monde, au début de mon existence, forcé par mes parents, « Ah, tu dois grandir, nanana, j'ai mangé de la viande comme tout le monde. » Et puis, je me suis aperçue que j'aimais tellement les animaux que je ne pouvais pas les manger, tout simplement. Je ne mange pas ce qui a des yeux, je ne mange pas ce qui a un regard.
Qu'est-ce que la manière dont l'homme traite et domine les animaux, encore aujourd'hui, révèle du monde dans lequel on vit?
Ça révèle, je crois, cette espèce d'immense suffisance de l'être du XXIe siècle, comme dans la mythologie grecque, qui pêche par urbicité. C'est-à-dire qu'il se croit maître du monde, il se croit le plus fort, car il l'est. Il domine toutes les autres espèces, et donc il les utilise, il les esclavagise, pour son plaisir.
Par quoi est-ce que vous vous sentez dominé, vous ?
Moi, dominé par tout. Je me sens dominé par absolument tout, par le fait déjà d'être une mortelle, donc par le fait de savoir que l'immortalité, hélas, ne nous est pas encore donnée. Et puis de toute façon, bon, l'espèce humaine, depuis le tout début, rêve de l'immortalité. Et nous en approchons maintenant. Les gens, c'est vrai, vivent de plus en plus vieux et de mieux en mieux.
Vous rêvez vraiment d'être immortelle ?
Moi, oui, quand même. Mais je ne me prends pas encore pour une immortelle. Immortelle pour toute sa vie.
Mais vous pourriez candidater à l'Académie française, cela dit,
voilà,
ce serait
ça,
drôle.
Ça, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais j'aime bien l'idée de l'Académie. Moi, les institutions m'ont toujours rassurée. J'aime l'Académie française, j'aime le mariage, même le mariage gay pour lequel j'ai beaucoup milité.
Et je vous en remercie, Ariel.
Oui.
Vous avez grandi, vous le disiez, au Mexique, un pays où les éléments peuvent s'exprimer de façon parfois très violente. Oui. Là-bas, quel lien est-ce que vous entreteniez avec la nature ?
Eh bien, j'avais très peur des volcans, parce qu'il y avait le volcan Popocatépetl et l'Ixtachihuatl, et on disait qu'ils allaient se réveiller. Ils se réveillent parfois, hein, les volcans comme Stromboli et comme d'autres. Donc j'avais peur de la nature. Mon père m'a élevée comme un petit garçon manqué. Il ne voulait pas d'une petite princesse tremblotante qui a peur de tout. Et donc il m'a obligée à être physiquement, n'avoir peur de rien.
Mais vous l'avez toujours gardé, ce lien avec la nature ?
Oui, profondément. C'est-à-dire que j'ai toujours l'impression que je peux, que la nature m'aime et que je peux, par exemple, la braver en nageant jusqu'au phare par des mers démontées et des choses comme ça. J'aime des défis physiques avec la nature.
Nageons jusqu'au phare comme des mers démontées, ma chère Ariel. Quelle image est-ce que vous gardez de cette nature mexicaine que vous décrivez parfois comme une jungle ?
Oui, parce que comme mon père était un grand archéologue, je suis beaucoup allée dans des fouilles Olmèques, Mayas, Chichimèques, Toltèques, et dans des jungles pour découvrir les civilisations encore enfouies, ce qui est le cas du Mexique. Et donc, j'ai beaucoup rêvé sur ces civilisations, parce que les civilisations meurent aussi. La nôtre va peut-être mourir aussi, si elle n'est pas assez adaptable
au nouveau monde. Donc vous trembliez déjà.
Et je tremblais déjà de me dire, les civilisations peuvent, puis surtout la civilisation mexicaine précolombienne, c'était quand même des très très grandes civilisations, comme l'Égypte, et absolument mystérieuse. Donc j'ai été très vite fascinée par tout ça.
Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait trembler, Ariel Dombal ?
Tout me fait trembler.
Tout ?
Oui.
Bah, moi, par exemple, ce matin, je ne vous fais pas trembler.
Non, mais je crois qu'il faut de toute façon se dire que chaque jour est comme une petite vie, que chaque jour va vous apporter quelque chose, et qu'il faut être débutant, comme on l'est tous. On est débutant dans nos propres conditions d'existence. On ne sait jamais ce qui va arriver. Je trouve que c'est le grand vertige du monde, c'est l'incertitude dans laquelle on est tout le temps.
Tiens, en parlant d'incertitude, vous savez qu'il y en a une qui me fait trembler tous les matins. Moi, c'est la
qui?
Culture. Et
la
son actualité en descente permanente quand elle n'est pas en very bad trip. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 10 avril?
Tu seras viril, mon kid, loin de toi, ces finesses tactiques de ces femmes d'origine qui féminisent gros guise.
On repart en live, en exclu ce matin dans Boomerang. On peut vous révéler les premiers noms du festival Fnac Live qui aura lieu sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris du 3 au 5 juillet prochain. Une trentaine d'artistes est attendue pour faire vibrer le cœur de la capitale, dont le kid de la chanson française, Eddie Depreto, la diva rock, Anna Calvi, le dandy lettré, Bertrand Belin, mais aussi Stéphane Echer, Étienne de Crécy, Bon Entendeur, Canine, Radio Elvis ou encore Ronnie Alter. Comme tous les ans, ce sera gratuit, ce sera groovy, easy.
What the fuck is there to explain?
Tatou Castle. Le comédien américain Seymour Cassell est mort dimanche à Los Angeles. Il avait 87 ans, moustache mythique, cigare, mine bourrue. L'acteur, connu pour son hédonisme à l'écran comme à la ville, avait tourné près de 200 films. Éternel mais flamboyant, second rôle, il avait tourné avec les plus grands, Delia Kazan à Warren Beatty. Mais c'est essentiellement devant la caméra de John Cassavetes, puis de Wes Anderson qu'il avait pris la lumière, notamment avec les films Faces et Le bal des vauriens du premier, et puis Rushmore ou La famille Tannenbaum du second. Peace. Des fonds pour le bon son, le musée du Quai Branly consacré aux arts et aux civilisations vient de lancer un appel aux dons pour restaurer sa collection de 10 000 instruments de musique venus du monde entier. Concrètement, le musée a besoin de 150 000 euros mais fait appel au public à hauteur de 40 000 via une campagne Ulule. Pour l'instant, l'opération n'a récolté que 8% de la somme nécessaire. Elle dure jusqu'au 23 juin, on compte sur vous, comme disait l'autre. Et mercredi, chez Père, séance au Top Zer, car aujourd'hui, dans les salles, on prend de la hauteur avec Les oiseaux de passage, le drame colombien aux airs de western moderne, signé Ciro Guerra et Christina Gallego. On croque la pomme et se laisse tenter par Blanche comme neige, relecture venimeuse du conte de Grimm par Anne Fontaine. Et sinon, on ne badine pas avec Les amours adolescentes dans Genèse, le beau triptyque de Philippe le Sage. Allez là. Et Ariel Dombal, invité de Boomerang
yes.
ce matin.
Écoutez, vous faites très Emiliano Zapata.
J'adore
mais parce
l'idée.
Que, non, mais c'est très révolutionnaire avec...
Oui, alors c'est le lancer de Boomerang, bon, Ariel, effectivement.
Bien,
c'est pour
bien.
Ça que l'émission oui. s'appelle ainsi.
Voilà, voilà.
On parlait tout à l'heure du Mexique, ce pays qui a marqué celle que vous êtes aujourd'hui. Et tout compte fait, j'ai l'impression que, où que vous alliez, vous vous êtes toujours sentie étrangère, Ariel. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, se sentir étrangère?
Eh bien, cela veut dire s'intéresser aux autres et se dire, tiens, il n'est pas tout à fait comme moi. Quel est son mystère? Voilà.
Quand
c'est
est-ce
ça.
Que vous avez senti, pour la première fois, que vous étiez étrangère? Quand est-ce qu'on vous l'a fait savoir?
Mais on me l'a fait savoir dès que j'étais très 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 petite, parce que j'allais dans des villages mexicains, j'avais des très très longs cheveux blonds, presque albinos, et on me disait toujours « Ay, gringa, gringuita, gringa, que linda, gringa ».
C'est effectivement très étrange.
Ouais. Oui. Walita, Walita, je pense que c'est le mot que j'ai le plus entendu au monde sur moi.
Walita, Walita.
Walita, Walita,
ça veut dire
petite blonde, petite blonde. Walita, Walita.
Où est-ce que vous vous sentez chez vous?
Dans des églises vides, probablement.
Dans des églises?
Oui.
Et pourquoi donc? Pourquoi est-ce que ce lieu a une résonance si intime?
Parce que je suis néanmoins très catholique, dans ce catholicisme mexicain du charbonnier. Je suis chrétienne, j'adore le grand message révolutionnaire du Christ, aimez-vous les uns les autres, qui est loin d'être appliqué, mais qui est quand même une chose merveilleuse.
Et comment est-ce qu'elle s'est construite, cette foi?
Elle s'est construite en deçà, par-delà moi-même. J'ai toujours aimé cette idée d'un au-delà, j'ai toujours aimé l'idée que l'on ne meurt pas vraiment, j'ai toujours aimé l'idée qu'il y a une justice immanente, j'ai toujours aimé l'idée que de faire le bien était bien.
Les images aussi, les icônes.
Et les icônes, les images, évidemment, au Mexique, il y a cette espèce de gloire à Dieu, ce Dieu qui leur a été un peu imposé par les conquistadors.
Pour dire le moins.
Voilà, pour dire le moins, puisqu'ils ont presque tous été zigouillés. Mais le Jésus-Christ a appris ce principe de la miséricorde aux Mexicains. Il y avait des sacrifices humains. Hein. Donc, le principe de la miséricorde qui est tout de même un très très grand principe. Et ce que j'adore dans les églises mexicaines et dans la foi mexicaine, c'est ces pèlerinages, ces fleurs, ces chants, cette beauté de la croyance où il est question beaucoup du sacrifice que l'on doit faire pour les autres et pour soi-même et pour le monde, et qui en soi est une très très bonne chose.
Cette foi, rien ne l'a jamais ébranlée?
Oh, mais c'est, justement, vous savez, après bien entendu, j'ai lu Rancé, Chateaubriand, j'ai lu les grands mystiques, au contraire, Saint-Augustin bien sûr, et puis j'ai aimé beaucoup lire toutes les grandes mystiques, les femmes.
Sainte-Thérèse d'Avila,
notamment.
Émilie Brontë.
Oui, Émilie Brontë, ou Sor Juana Inés de la Cruz, des femmes très exaltées, très mystiques, et qui recherchaient cette grande extase mystique qui me semble un grand, grand mystère.
Ne me dites pas que vous recherchez l'extase mystique, Ariel.
Mais alors, j'ai même fait un album qui s'appelait Extase et Pierre et Gilles m'ont photographié en mystique extatique.
C'est une photo mythique que j'invite tous les auditeurs de Boomerang à regarder. Et qu'est-ce qui vous fait douter dans la vie, vous?
Mais écoutez, je crois que douter, on doute de tout, n'est-ce pas? Mais néanmoins, il y a comme ça des adorables certitudes que l'on porte toute la vie avec soi, qui sont un petit peu le noyau dur de l'être. Et on se dit, non, moi, il y a deux ou trois choses que je sais qui sont douces et bonnes et vraies.
L'amour,
et
vous savez, vous, l'amour?
Oh, ben évidemment.
Quel sentiment est-ce que c'est pour vous?
Ah, l'amour! Je pense que c'est la grande aventure de la vie et que c'est la chose qui nous fait le plus souffrir, c'est-à-dire nous anéantit. Il n'y a que l'amour qui a cette force-là.
Si ça se trouve, c'est une religion, Ariel Dombasle.
C'est une religion. Et il faut être amoureux de l'amour pour vraiment savoir aimer.
Oui, je n'ai jamais rencontré le grand amour jusqu'ici. Je veux le rencontrer. L'amour est une chose brûlante. Moi, je veux brûler d'amour. Je n'ai jamais brûlé d'amour, sauf en rêve, comme toutes les filles, pour un acteur, un prince, un champion, un visage aperçu et jamais revu. Mais ce n'était pas de l'amour. J'ai sans doute allumé des feux en des gens, mais des gens qui ne me plaisaient pas, alors je ne l'ai même pas remarqué. Il y a peut-être même des hommes qui se sont suicidés pour moi. Non, j'espère que non. Non, mais s'ils l'ont fait, je n'en ai rien su. Bon, écoutez, aussi étrange que cela puisse paraître, une chose ne m'est jamais arrivée. Allumer un amour en moi et en un autre être, instantané et réciproque. Mais je ne désespère pas. Un jour, l'étincelle jaillira et je serai tout à coup comme un immense brasier.
Pauline, à la plage, il y a 36 ans d'Éric Rohmer, voilà. Ariel Dombasle, il a énormément compté pour vous, je sais que vous pensez encore toujours à lui, tout le temps.
Oui, c'est un grand maître. Et puis alors on dit, Éric Rohmer a inventé le cinéma parlant. Mais c'est vrai que je me rappelle de ce grand discours que vous venez d'entendre. Et moi je disais à Éric, mais non, je ne veux pas dire tout ça, c'est ridicule. Voilà, et il y avait toujours, on a l'impression que les êtres inventent leurs textes, mais c'est très 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 écrit et très difficile à jouer.
Quel homme est-ce qu'il était ?
Un homme... d'une austérité merveilleuse, une sorte de grand savant, très sensible, ne voulant alors là vraiment très écolo, ne voulant jamais prendre même pas un autobus ou quelquefois un autobus, faisant tout à pied, détestant les taxis, la pollution, les excès, la consommation. Alors c'était un être totalement à part.
Et puis un être très discret aussi, Ariel Dombasle, un homme qui se tenait à l'écart de la célébrité, de la vie publique, pourquoi ?
Oui, il pensait que la célébrité n'avait absolument pas d'intérêt, et qu'on pouvait la voir, mais que ce n'était pas spécialement une valeur, du tout même, c'était plutôt un ennui, et que la discrétion, l'invisibilité, le raser les murs, être invisible, était extraordinairement plus intéressant que la célébrité qui se paye évidemment par quelque chose qui peut vous faire beaucoup souffrir et qui vous isole évidemment. L'argent et la célébrité isolent.
Force est de constater que vous n'avez pas pris la même voie qu'Éric Rohmer sur ce sujet.
Non, moi non, parce que moi j'ai toujours été épicurienne. Moi j'aime les plaisirs, j'aime les choses délicieuses.
Mais que vous a apporté cette célébrité, Ariel Dombasle, le fait d'être vue, reconnue, d'incarner une sorte de personnage?
Eh bien moi ça me plaît, les gens sont extraordinairement gentils, parfois ça me... Bon, d'abord, c'est vrai que ça me donne beaucoup de privilèges. Quand je vais aux urgences à l'hôpital, accompagner un ami, eh bien, les gens sont plus gentils avec moi. C'est injuste, mais c'est comme ça.
C'est une bonne raison d'être célèbre, Ariel Dombasle.
Non, mais c'est vrai. C'est des raisons, mais complètement vraies.
Ah bah oui.
Et puis les gens sont gentils, vous font passer parfois en premier. Moi, je trouve que c'est ça qui est vraiment bien dans la célébrité. Et puis, en plus...
Vous faites ça pour me faire rire.
Mais non, et puis en plus, les gens vous disent des choses gentilles. Tout de même, moi, je reçois beaucoup de compliments par jour et des voilà. Alors, quelquefois, les gens pleurent.
Pardon ?
En me voyant.
Ah, ça, c'est l'icône religieuse.
Peut-être.
Que vous rêviez d'être.
Oui, mais figurez-vous que j'étais au Bon Marché, et puis il y avait une dame et sa petite fille qui pleuraient en me voyant, parce qu'elles étaient émues. Moi, ça, ça m'a complètement bouleversée. Et du coup, je me suis mis à pleurer avec elle.
Oh, bah, ça devait être super au Bon Marché. C'était dans quel rayon? Qu'on le sache.
Lingerie.
C'était dans le rayon lingerie, évidemment. Est-ce que vous diriez que le regard des autres, Ariel Dombasle, est addictif?
Oui, bien sûr que le regard des autres est addictif. Et puis, nous sommes des êtres excessifs. Donc, on se dit, mais oui, je veux être aimé, je veux être aimé. C'est illimité. Et on veut aussi aimer de manière illimitée. Et il faut que l'autre vous laisse l'aimer de manière illimitée. Tout est extraordinairement difficile.
Quand est-ce que vous avez pris conscience de ce regard des autres posé sur vous?
Dès que j'ai eu 4 ans, dès que j'ai eu 3 ans. Parce que, je vous dis, j'étais
la petite blonde
sur laquelle les gens se retournaient. Et parfois, j'avais même des enfants dans certains villages qui me tapaient sur la tête parce que j'étais si blonde que j'avais l'air albinos un peu.
En fait, on vous a toujours considérée comme une étrangère.
Voilà.
Alien.
Alien. I'm an alien. Alien Crystal Palace, my dear.
Donc ça, c'est le titre de votre dernier film.
De mon dernier film.
Et quel regard est-ce que vous portez sur vous? Tiens.
Quel regard?
Oui.
Oh ben, je ne me pose pas trop la question. Je n'aime pas l'introspection, je n'ai jamais fait de psychanalyse.
je ne souhaite à aucun psychanalyste vous rencontrer. C'est parce que là, c'est 25 ans, Ariel.
Non, mais ça me semble, je trouve qu'il vaut mieux se débrouiller autrement, c'est-à-dire créer, faire des choses. J'ai la chance d'être une actrice, donc j'entre dans des personnages. Et puis, qu'est-ce qu'on fait quand on est actrice? Eh bien, on vit les choses qui sont écrites et qu'on nous a demandé de jouer.
Mais un regard amusé aussi, j'ai l'impression, plein d'autodérision. C'est ce qui vous rend...
Oui, 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 bien sûr.
Charmante, enfin, Ariel.
Oui, c'est-à-dire que c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui se prend au sérieux, mais je fais les choses très sérieusement.
Qu'est-ce qui vous amuse le plus chez vous?
Ce qui m'amuse le plus, c'est d'être avec mes amis et de rire.
Vous êtes drôle, donc?
J'aime rire. Je sais pas si je suis très drôle, mais j'aime rire.
Et votre snobisme?
Mon snobisme, on l'a toujours dit que j'étais snob.
Vous n'êtes pas?
Non, je ne le suis pas.
Pas du tout, du tout?
Du tout, du tout. Je suis élitiste, peut-être.
Bah, vous savez qu'il n'y a pas de mal à ça, hein, surtout quand on s'en amuse. Vous savez, comme personne, l'autodérision, ça sauve de tout, Ariel.
Oui, enfin, est-ce qu'on a besoin d'être sauvé?
De toute façon, je vais vous piéger parce que vous la connaissez, la chanson. Ariel Dombasle chante Boris Vian, je suis snob. C'était il y a 10 ans.
Ah oui,
c'est toujours d'actualité.
C'est,
vous êtes sur France Inter.
Ah
vous
oui.
Écoutez Boomerang. Ah, c'est bon, c'est très très bon.
Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je cope. Ça demande des mois d'urbain. C'est une vie de galérien. Mais lorsque je suis Je suis snob. Tous mes amis le sont. On est snob. Et c'est bon. Milou du Congo, du Pierre du Pilou, chaussures de Diego et méchant de pièces à 100 sous. Un rubis au doigt, deux pieds, pas celui-là. Les ondes, tu vois. L'odeur du crottin, je ne fréquente que des baronnes. Oh non, comme des trombones. Je suis snob. Et quand je parle d'amour, c'est toute nue dans la cour. On se réunit avec des amis tous les mercredis pour faire des snobismes parties. J'avais la télé, le salon, le lit, je l'ai
accidents. Au jaguar, je passe le mois d'août. Au plumard, c'est dans les petits détails comme ça que l'on est snob ou pas. Je suis snob, je suis snob. Et le jour de ma mort, je veux un sueur de chez Dior.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Quelque part entre la bonne fée du magicien d'Oz, Mary Poppins sous champi hallucinogène et Marie-Madeleine, la crinière blonde de toujours, le regard félin, le sourire hollywoodien avec oui. Elle, on se sent littéralement transporté dans une autre dimension. La dame de pique ce matin, tout en noir, avec des petits éclats de rouge.
Voilà.
Et puis du trèfle, du pique, du cœur.
Du trèfle, du pique, quelques petites touches de couleur.
Et
comme
du
ça,
carreau.
Vibrante.
Ariel Dombal.
Un peu pop.
Invité de Boomerang ce matin. Et ce qui me frappe chez vous, c'est cette manière que vous avez de toucher à tous les arts, en réalité. À quel moment vous avez compris que vous seriez artiste?
Oh, je l'ai compris dès que j'ai commencé par être un bébé, et puis tout de suite, je l'ai su. J'ai d'abord été une danseuse pendant longtemps, une danseuse classique, et ça me semblait le sommet. La danseuse classique, sur pointe avec un tutu, me semblait le sommet de la beauté féminine.
C'est ça,
et de l'art, oui.
C'est la beauté qui revient tout le
oui,
temps.
Et la manière aussi dont les corps des danseuses prennent l'espace, bougent, c'est, j'adore ça.
Cette quête de la beauté, Ariel Dombal, vous souvenez-vous de la première fois où vous vous êtes sentie frappée?
Eh bien, c'était dans les cours de danse avec d'autres jeunes filles qui étaient justement sur pointe, alors que moi j'étais trop petite et je n'avais pas le droit encore d'être sur pointe. Et je regardais mes petites camarades danseuses et je me disais, oh, pourvu qu'un jour je sois comme elles. Et je pleurais, quoi.
Qu'est-ce qui était beau? C'était l'élévation.
Ce qui était beau, c'était la perfection des gestes. Ce qui était beau, c'était la pureté, la transparence. Ce qui était beau, c'était la précision de chaque mouvement. Ce que l'on retrouve en musique aussi. On arrive à la beauté de la musique. Qu'est-ce que c'est que l'harmonie? C'est des notes ascendantes, dissonantes. Moi, j'ai fait beaucoup d'études de musique.
Votre mère jouait de la guitare, je crois.
Ma mère jouait de la guitare adorablement. Et oui, adorablement. Et elle chantait toutes les merengues, les rumbas, les calypsos mexicains. Et moi, j'ai fait le conservatoire de musique et des études vraiment Rossini, Puccini, Bach, Rameau. J'ai pénétré dans cette musique profondément avant de faire mes premiers albums.
La gaieté chez vous, Ariel Dombal. Parce que je vous regarde, là, je vous vois très émue en réalité quand vous parlez de votre mère. C'est une façade. La gaieté, c'est une nature.
C'est une nature, je crois. Oui, parce qu'on me dit toujours que je suis un bébé. On a mis très longtemps à me faire pleurer.
Vous remarquez que je ne vous ai pas dit ça, moi.
Quoi ?
Vous remarquez que je ne vous ai pas dit ça, que vous ressembliez à un bébé. Ça aurait été très étrange. Un bébé Ariel Dombal.
Un bébé. Non, mais un bébé, que quand j'étais bébé, on a mis beaucoup de temps à me faire pleurer. Je suis née en riant.
Vous pleurez jamais ?
Si, je pleure énormément, mais avec des vrais terribles sanglots. Et je me dis toujours, il faut trouver les raisons de ne pas pleurer. Elles sont pas faciles.
Vous pleurez pourquoi?
Pour tout.
Tout?
Oui, je suis quelqu'un qui pleure facilement.
Et devant la beauté?
Devant la beauté, je ne sais pas si je pleure devant la beauté, non. Non, elle est étrange. Elle me sidère.
C'est intéressant parce que c'est par le chant que tout commence pour vous. D'ailleurs, si vous avez rencontré Eric Rohmer, c'est parce qu'il voulait que vous chantiez, je crois.
Voilà, c'est ça. Et donc, Guillaume de Machaut... Je suis entrée dans la musique médiévale par Eric parce que on a quand même travaillé pendant 2 ans avant le film. Fabrice Lucchini, moi-même et toute la petite troupe qui était autour pour Perceval Le Gallois. Et donc, j'ai appris beaucoup de choses, les enluminures, la manière dont le Moyen-Âge voyait l'existence, les proportions. On ne dessinait pas encore les perspectives, donc on allait voir les enluminures du Moyen-Âge. J'ai appris beaucoup de choses, et notamment cette musique baroque que j'ai beaucoup aimée, que j'aime toujours.
C'est pas de la musique baroque que je vais vous demander de chanter
non.
Ce matin. Vous avez choisi de nous interpréter Cry Me a River, ce standard de jazz écrit par Arthur Hamilton, interprété notamment par Julie London, Ella Fitzgerald, Ray Charles. Pourquoi ce titre, Ariel?
Parce que je ne l'ai jamais chanté. J'ai toujours aimé Julie London, qui m'a semblé une chanteuse mystérieuse, comme ça a été chanté par Ella Fitzgerald, ça a été chanté par la terre entière, mais par les grandes voix, les voix sensibles. Mais je trouve que c'est merveilleux parce que justement, c'est sur les pleurs.
Alors on vous écoute, Ariel, accompagné de Philippe Evenot qui s'est glissé dans notre studio.
You can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. I cried a river. I cried a river over you.
Mais des matins comme ça, j'en veux tous les jours, moi.
Oh,
Ariel Dombal.
Dear, thank you.
Tu ressembles à Jessica Rabbit dans le studio, accompagnée à la guitare de Philippe Evenot qui reprend Cry Me a River. Merci, Ariel, yes, d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que votre dernier et mémorable film Alien Crystal Palace est sorti le 23 janvier dernier. Vous êtes en préparation d'un nouvel album avec le si talentueux Nicolas Kerr. Après ce très beau disque qui s'appelle La Rivière Atlantique, je voudrais remercier aussi ce matin Rémi Sistiaga et Guillaume Roux à la technique en direct parce que le son était magnifique. Tout de suite, les médias. Est-ce que vous m'entendez, Sonia?
Oui, yeah, c'était bien. Et Philippe Evenot, on a fait ça comme ça hier.
Mais oui, c'était très bien, très bien, Ariel Dombal. C'était même formidable.
Oh, thank you.
With pleasure.
Bon, allez, on va bon, salut à tous. Les deux ensemble, c'est fini, là. C'est pas possible.
Allez, salut, bye bye. Les médias maintenant. Et Augustin.
Oui.
Augustin, j'ai tenu ma promesse.
Ah bah
j'ai
oui,
reçu Patricia Loiseau.
Patricia Loiseau est ma journaliste préférée, donc je vais vous écouter.
Voilà, salut.
Je vous embrasse.
Ah.